CFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Salut Rémi,
salut Aurélien,
salut tout le monde. L'information en Tarn-et-Garonne ce soir, eh bien, ça va être cette exposition de Flavio De Faveri qui est dans le hall du Conseil général depuis quelques temps déjà et qui est prolongée jusqu'à la fin du mois de janvier. On va en parler aujourd'hui en compagnie de Roland Garrigue qui est l'auteur de cet ouvrage Flavio De Faveri, un dessin sculpté aux éditions du Réveil, un ouvrage qui retrace en fait la vie, le parcours de cet artiste montalbanais. Roland Garrigue, bonjour.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous.
Moi qui vous remercie.
On écoutera ensemble dans un instant une interview de Flavio De Faveri, réalisée il y a quelques jours à peine, au milieu de ces sculptures, de ces 60 sculptures qui retracent un petit peu toute sa vie. Et je vous demanderai ensuite justement de réagir et puis enfin de nous parler de cet ouvrage Flavio De Faveri, un dessin sculpté. Mais pour commencer, on va mettre fin à une rumeur qui court, celle de la fermeture du centre Amar. Cet après-midi, Joëlle Gréder, présidente de l'association Amar, organisait une conférence de presse afin de couper court à cette rumeur. En effet, suite à l'annonce récente du ministre Claude Guéant de la fermeture de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile de Montauban, beaucoup pensaient que l'association Amar mettrait la clé sous la porte. Il n'en est rien. En effet, l'association Amar avait déjà décidé de ne plus assurer la mission d'accueil des primo-arrivants, estimant que la demande de l'État ne correspondait plus aux missions de l'association. On écoute Joëlle Gréder.
Nous ne fermons pas nos portes puisque nous continuons l'hébergement des demandeurs d'asile dans nos trois structures. Mais ce que nous avons, que nous cessons au 31 décembre, c'est l'accueil des primo-arrivants. Nous pensions et nous faisions que l'accueil était global. On s'occupait, on donnait les informations, on aidait au dossier, à l'accès aux droits, à l'accès aux soins, à l'accès aux scolarités pour les enfants, à l'hébergement. Enfin, nous faisions un accueil global pour que les personnes qui arrivent, qui demandent l'exil, puissent se poser et commencer à se reconstruire. Or, aujourd'hui, la demande du gouvernement, de l'État, c'est de faire un accueil purement et simplement administratif. Donc, ça ne relève plus des missions de l'association Amar.
Ça, c'était une demande qui était déjà, qui datait déjà de début de l'année 2011. Vous aviez déjà pris votre décision de ne plus vous occuper de cette plateforme, de ne plus répondre à cet appel-là. C'était bien avant l'annonce de Claude Guéant.
Ah oui, c'était bien avant l'annonce de Claude Guéant. Nous avons décidé dès début 2011 pour justement que les services de l'État puissent se retourner et mettre en place une suite à nos actions. Donc nous ne voulions pas prendre les demandeurs d'asile en otage. Donc nous avons annoncé très tôt notre décision. Et donc ils cherchaient un repreneur sur le Tarn-et-Garonne et donc Claude Guéant a annoncé la fermeture du dispositif en Tarn-et-Garonne pour tout rapatrier sur Toulouse. Pour les demandeurs d'asile, ça va être un parcours encore plus difficile parce que donc le nombre, nous étions à plus de 400 demandeurs d'asile que nous avons rencontrés en 2011. Donc ça fait tous ces hommes et ces femmes qui vont aller en Haute-Garonne. Donc nous, on avait par exemple pour le premier rendez-vous à préfecture, on avait un délai de 3 semaines. Ce qui est déjà beaucoup, donc le délai là va augmenter. Et les conséquences négatives vont être pour toutes les associations tarn-et-garonnaises vers qui les gens vont se retourner, associations caritatives, la CIMAD, les CCAS, toutes ces personnes que nous recevions vont se retourner vers ces dispositifs-là.
Combien il y avait de demandeurs d'asile qui passaient jusqu'à maintenant par cette plateforme?
Alors pour une année, je vais vous dire, en 2011, 504 personnes. Voilà.
Et par contre, vous, au centre Amar, à l'association Amar, vous accueillez beaucoup plus que 504 personnes, puisque vous occupez de réfugiés, de demandeurs d'asile qui passent pas forcément par cette plateforme.
Oui, non, tous les demandeurs d'asile ne passent pas par cette plateforme, parce qu'il y en a, par exemple en CADA ou en CPH, on peut avoir des admissions d'autres départements. Puisque c'est un dispositif national, le dispositif d'hébergement. Et donc, quand on a une place de libre, on le met dans le dispositif national et c'est nationalement qu'on nous dit vous prenez telle ou telle famille. Et puis, les gens restent, ils peuvent rester jusqu'à 18 mois, 2 ans dans le dispositif. Hein.
Le financement de cette plateforme, c'est un financement d'État.
C'est un financement d'État.
Une partie, donc, vous revenez puisque vous aviez cette mission qui vous étiez confiée par l'État. Le reste de votre mission, c'est aussi l'État qui vous le confie? Ça marche?
Oui, nos financements sont d'État pour tous les dispositifs.
Est-ce que vous vous attendiez, lors de la visite de Claude Guéant, à ce qu'il annonce la fermeture de cette plateforme?
Ah non, pas du tout, parce que on travaillait avec les services de la préfecture à voir comment passer les relais à ceux qui allaient nous succéder. Donc nous avons été très étonnés.
Voilà, c'était Joël Gréder cet après-midi lors de la conférence de presse. En conclusion, l'association AMA a lancé une procédure de licenciement économique pour les deux salariés qui travaillaient sur la plateforme d'accueil et poursuivra sa mission d'accueil et d'hébergement au sein des trois structures UDA, CADA et CPH. Je peux vous demander une réaction, Roland Garrigue, sur ce que vous venez d'entendre?
Oui, là nous sommes en période préélectorale et donc... Pour faire la compétition avec le Front National, le ministre de l'Intérieur et la députée maire de Montauban ont fait des annonces en ce sens. Mais nous allons parler de Flavio De Favori, un artiste d'origine italienne. S'il y avait eu les mêmes dispositions d'esprit à l'époque où ces immigrés italiens étaient arrivés à Montauban, de même que les immigrés espagnols, ben je crois qu'ils ne seraient pas venus en France ni reconstruire notre ville après les inondations.
On va parler effectivement de Flavio De Favori juste après un petit peu de pub.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs. CFM, le MAG. Tous les jours, 17h, 17h30. La vie du Tarn-et-Garonne.
En Tarn-et-Garonne, pour tous vos bris de glace, JC Pare-Brise est là. JC Pare-Brise, une équipe de techniciens à votre service, répare et remplace vos optiques, lunettes arrière, glace latérale, pare-brise et pose pour votre confort les films solaires. JC Pare-Brise à Montauban répare et remplace aussi à votre domicile vos bris de glace, tourisme, utilitaire, poids lourd et agricole. Exceptionnel, JC Pare-Brise vous offre la moitié de votre franchise bris de glace ou 20 euros en chèque cadeau. Info 05 63 22 55 20. 05 63 22 55 20.
À Nègrepelisse, exceptionnel, incroyable. Chez Déco Cadeau, grand coup de balai sur tout le magasin. Moins 50%. Oui, moins 50%. Car tout le stock doit disparaître avant fermeture définitive. Moins 50% sur les lampes, tableaux, jouets, animalerie, jardinage, vaisselle, linge de maison, loisirs créatifs. La boutique Déco Cadeau, avenue Jean Fleury à Nègrepelisse, c'est à l'intérieur de Mutant et tout est à moins 50% avant fermeture définitive. Tous les lundis matins, de novembre à mars, les truffes rivalisent avec le safran, la volaille, les oies et les canards gras au marché de Caussade. Le 23e concours de gras se tiendra lundi 19 décembre à l'espace Bonaïs. Venez nombreux y découvrir les produits de notre terroir et l'animation gourmande proposée par la cuisine d'antan. Les safranières du Quercy Caussadais vous présenteront enfin de nouvelles idées de recettes à base de safran pour agrémenter vos repas de fête. Lundi 19 décembre, ne manquez pas le marché au gras, truffes et safran de Caussade.
La cabane du pêcheur, restaurant de poissons et fruits de mer à Montauban. Retrouvez dans sa cale poissons, huîtres, coquillages, crustacés en fonction des saisons et de l'humeur des pêcheurs. La cabane, un arrivage journalier, 15 ans d'expérience et deux adresses pour déguster pariades de poissons et crustacés grillés et plateaux de fruits de mer. La cabane du pêcheur, le spécialiste de la mer à Gruissant et rue du Pasteur Louis Lafont, proche stade de Sapiac à Montauban.
La cabane du pêcheur sera ouverte non-stop durant toute la période des fêtes de fin d'année, les réveillons et jours de Noël inclus.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Alors, Roland Garrigue, il y a une exposition actuellement dans le hall, le grand hall du Conseil Général, et qui est prolongée jusqu'à la fin du mois de janvier. C'est une rétrospective sur Flavio De Favori. Et le livret qui accompagne cette exposition, finalement, c'est un peu plus qu'un simple livret. C'est une sorte de biographie que vous avez réalisée et qui s'intitule Flavio De Favori, un dessin sculpté. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce travail-là, déjà?
C'est-à-dire que c'est le livre écrit sur Flavio, écrit l'an dernier, en 2010, qui est apparu en juin 2011, qui a déclenché l'exposition. Et j'ai appris que Flavio a été honoré la semaine dernière dans la salle des illustres du Capitole par un prix de l'Académie du Languedoc. Donc, et j'en suis très heureux pour lui. J'en suis très heureux pour lui parce que c'est ce qui a déclenché, comme vous dites, ce qui m'a fait faire ce livre, c'est que c'est un artiste qui finalement est méconnu, qui est resté trop modeste, mais c'est un grand artiste. Classique, bien sûr. Alors, l'exposition du hall de l'ancien, du Conseil Général permet aussi de découvrir ce hall du Conseil Général et son éclairage. Et je dois dire que cet éclairage met en valeur, et l'espace met en valeur, les productions des artistes. Ça avait débuté avec l'exposition en hommage à Bourdelle, avec les sculpteurs actuels de l'espace Bourdelle et d'autres sculpteurs connus du département. Et puis cette exposition des œuvres personnelles de Flavio De Savary. Il n'y a aucune œuvre qui appartienne à des collections privées parce que Flavio, qui n'a pas voulu vexer des gens en disant pourquoi lui et pourquoi pas lui, donc c'était suffisant. Et je dois dire qu'il y a encore bien des œuvres de lui, des bas-reliefs et une multitude de dessins qui sont encore chez lui conservés.
Alors voilà, il est né en 1930, arrivé à l'âge de 1 an à Montauban, en Tarn-et-Garonne, Flavio De Favary, d'Italie, comme son nom l'indique.
Nord de l'Italie.
Je vous propose d'écouter déjà une petite partie d'une conversation qu'on a eue il y a quelques jours en visitant cette exposition donc dans le hall du Conseil Général avec Flavio De Favary.
C'est une espèce de rétrospective, hein. C'est le travail de toute une vie. Disons que là, c'est les fonds d'atelier. Hein. J'ai fait une exposition avec ce que j'ai à la maison. Je suis un sculpteur. Pas du dernier cri, hein. Je ne fais pas de la ferraille. Je suis resté figuratif parce que mon âme est là, hein. Et alors, je suis encore de ces gens qui travaillaient du bois, du plâtre, de la pierre, le bronze, la terre cuite. J'étais un peu le généraliste de la sculpture. Voilà.
Laquelle de ces œuvres est la plus ancienne ?
La plus ancienne, alors. Je cherche une des plus anciennes. Je la cherche. Oui, nous déambulons, nous cherchons. Tiens, la voilà. C'est le portrait de ma femme. Nous étions fiancés. Vous voyez, nous l'avons là, ici. Donc, c'est le buste de mon épouse. Là, voilà. 1953. Vous voyez, on était encore fiancés. Hein? Ça, bien sûr, ça n'a jamais été avant, vous le comprenez. Voilà, pour moi, c'est toute une vie, là. Hein? C'est une femme que j'aimais beaucoup, qui, malheureusement, vient de me quitter. Et on se sent bien seul. Voilà. Donc, c'est l'œuvre la plus ancienne.
Techniquement, c'est du modelage ?
Alors, c'est du modelage et qui sert en principe à être traduit en bronze. Voilà. Donc, c'est le stade intermédiaire entre l'étude et le final. Hein. Voilà, c'est la plus ancienne.
Voilà. La voix de Flavio De Favary, je tenais à ce que les auditeurs l'entendent, et puis à ce que vous l'entendiez aussi, Roland Garrigue, pour pouvoir réagir un petit peu, parce que cette voix, vous, pour réaliser cet ouvrage, vous l'avez entendu longuement, puisque c'est sous forme d'entretien que vous avez réalisé.
En effet, sous forme d'entretien, nous réunissions pendant tout l'été des 80 ans de Flavio, l'été 2010, et à 15h, le rendez-vous était fixé et nous parlions. Alors, je n'enregistrais pas, j'écrivais en fonction de ce qu'il me disait. Donc, on reprenait, on allait faisait des retours. Et au fur et à mesure que nous avancions dans le temps, il était de plus en plus expansif. Et c'était très bien. Enfin, c'est quelque chose... Moi, j'ai une nostalgie de l'écriture de ce livre parce que c'est la rencontre d'un personnage... haut en couleur, d'un très grand artiste. Et finalement, c'est le génie de notre ville, Montalbanaise. Il a connu, pratiquement, il a évolué avec toute l'école de Montauban. Il se situe dans la prestigieuse école de dessin. Il était pro directeur d'école de dessin, l'école municipale de dessin, fondée par Ingres, mais qui a connu des professeurs prestigieux, dont lui. Et c'était quelqu'un qui a toujours été modeste. Et puis il a fait partie de divers groupes. Il a exposé notamment avec l'espace Montauriol qu'avait créé Madame Baillet. Et là, finalement, il se retrouve au château Montauriol, invité par le président Baillet. Je crois que c'est une bonne chose, une très bonne chose que des collectivités territoriales fassent revivre des artistes et de grands artistes vivants.
Il y avait une œuvre qui trône d'ailleurs au milieu de cette exposition que vous aviez commandée quand vous étiez encore aux commandes de la mairie de Montauban.
Oui, nous avons commandé plusieurs œuvres. en particulier Aurore qui a accueilli les gens. Nous avons commandé le portrait de Jean Moulin. C'est la préfecture, mais cofinancé par la ville de Montauban. Les anciens combattants de la FNAC ont commandé le monument au cours Foucault, mais aussi payé en partie par la ville de Montauban. Il y a eu une commande aussi à Falguière, le monument aux morts de Falguière, qui est un bas-relief. Il a eu plusieurs commandes. Et j'ai un regret, c'est de n'avoir pas pu installer définitivement la plaine, qui est une belle sculpture de lui et que nous avions l'intention de commander. Les budgets étaient inscrits, mais bon, les aléas politiques en ont fait autre chose.
On écoute encore la suite de cette conversation avec Flavio De Faveri, réalisée donc il y a quelques jours. Non, c'est pas calé, Aurélien, sinon c'est pas grave, on continue de discuter avec Roland Garrigue. Hein, le temps que tu... C'est bon ? Allez, on l'écoute.
Et d'ailleurs, on retrouve dans les portraits des statues, c'est souvent mes filles. Vous voyez, on retrouve des airs de famille. Vous n'y pouvez rien.
Alors, ce sont souvent aussi des corps de femmes très athlétiques qui font penser parfois à ces sculptures des pays de l'Est.
On peut pas faire des femmes fil de fer. Hein, un volume, il faut que ça tienne dans l'espace. Vous comprenez? Puis il faut pas oublier qu'il y a eu Mariol. Il y a Michel-Ange, qu'on le veuille ou pas. Et puis alors, il y a Phidias. Et puis tous les autres.
Voilà encore un petit court extrait de cette conversation qu'on a eue. Alors ça a été une longue conversation.
Hein.
On a passé plus d'une heure à déambuler d'une statue à l'autre et ça a été l'occasion pour Flavio De Faveri de me raconter justement un peu toute sa vie, de comment il en est venu d'ailleurs à la sculpture par son père qui était ébéniste et ce savoir-faire qu'il allait, comme vous l'écrivez dans cet ouvrage, qu'il allait voler finalement. Aux autres artistes, quoi. Il utilise beaucoup ce mot-là, d'aller voler la science de l'autre, quoi.
Oui,
c'est pour dire copier, en quelque sorte.
Voilà.
C'est son père qui
lui avait... Il s'inspirait d'eux, comme il dit beaucoup, mais il est, en effet, et en particulier un été, il est allé avec son frère, ses frères et des amis, des camarades, à visiter les œuvres de Mayol, à Banyuls, un peu partout. Et il en avait aussi un bon souvenir parce que au retour ils ont essuyé un orage carabiné et heureusement qu'un camion les a pris en stop à Carcassonne. Mais Flavio De Faveri justement s'inscrit, enfin c'est les femmes de Flavio De Faveri sculptées par Flavio, c'est quelque chose d'impressionnant et je dois dire que notre fierté c'est de présenter et de proposer de son vivant cette œuvre, une grande œuvre, parce qu'il a beaucoup travaillé, bien travaillé, mais beaucoup travaillé. Et son atelier à Fontneuve, là, est quelque chose de spectaculaire, de très très intéressant.
Il a essayé, en 68, il s'est essayé à autre chose que le figuratif. Hein. Je crois, alors, on en a beaucoup parlé avec lui en visitant cette exposition, parce qu'il y a une œuvre, en fait. Hein,
oui, qui est à la clinique Boyer.
Ouais.
Que le docteur Boyer lui avait commandé.
À laquelle il a rajouté des bras et des jambes parce que par rapport à la structure originale.
Ce n'était pas sa tasse de thé.
Non, non, non. Il nous dit d'ailleurs hein, qu'il a cassé beaucoup des œuvres qu'il a réalisées à cette époque-là. On continue d'écouter un peu Flavio De Faveri.
Ce qui est peut-être dommage.
Alors celle-là, c'est la plaine. Ça, c'est l'original qui aurait dû être à Montauban, place, vous voyez, la chambre de commerce, là où les Gédols devaient aller là. La municipalité Garrigue l'avait voté à l'unanimité. Puis, ça a changé de municipalité, et ça a été complètement rejeté. Ce qui fait qu'il me reste, donc, c'est l'œuvre originale, vous voyez, et c'est pratiquement la plus grande œuvre que j'ai faite. Vous voyez, il y a de la force. J'ai des filles, si vous voyez, j'ai des filles qui sont comme ça.
Là-bas, il y a une période de votre vie où vous avez essayé un autre style, très cubique.
Oui, alors, bon, vous savez bien qu'en 68, il y a eu des choses. en 68, le directeur, dont on avait parlé auparavant, m'avait dit, Flavio, il m'a dit, vous savez, il va y avoir un concours de professeurs de sculpture pour les préparatoires. Il me dit, je vous y verrai très bien. Donc, je l'avais retenu. Et puis, j'ai présenté un concours. Bon. Puis, en fait, ça n'a pas marché. Alors, j'ai eu une grande chance de ne pas être nommé. Parce que ça a été la révolution à l'école. Alors, mes copains me disent, là, il y a tout un tas de gauchistes qui sont montés. On a cassé tous les plâtres, tout ce qui était figuratif. Hein, tous les plâtres romains, grecs, ils ont tout cassé. Plus de dessins, plus...
Ici, à Montauban.
Non, à Toulouse.
Ah, à Toulouse.
Oui, non, à Montauban. C'était discret. Bon, et alors, mes copains me disent, tu comprends, maintenant, c'est fini, tout ça. Il faut abandonner tout ça. Le révolutionnaire, où on efface tout. Et on recommence.
On arrête le figuratif et on invente autre chose.
Voilà. Alors, il m'a dit, tu t'habilles pas comme en 1900. Bon, alors j'ai essayé de faire quelques trucs, notamment celle-ci.
On s'en rapproche.
Voilà, oui. Vous voyez ? Alors, j'ai fait ça. J'ai fait ça dans l'esprit des purées. Vous voyez ? J'en ai fait une dizaine dans ce goût-là, que j'ai cassé.
Oui.
Que j'ai cassé. Voilà. Alors... Vous voyez, c'est déjà une autre démarche. C'est déjà... Bon, alors ça, c'était en 68. Et puis, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et puis, je me suis
appelé... Je vais essayer de le décrire pour que les auditeurs comprennent, parce qu'on fait de la radio. Ça ressemble quand même. On retrouve votre style, mais on est sur quelque chose de très épuré. Je ne sais pas si on peut dire cubique, parce que moi, je n'y connais pas grand-chose.
Non, mais c'est plus épuré. Mais il n'y a plus la sensibilité de la peau, il n'y a plus le charme d'un visage.
C'est comme une esquisse, quoi.
Mais vous le voyez.
C'est stylisé.
Vous voyez, les jambes, ça fait un peu Bigorre le Ventrue. Bon, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et puis, il y a la clinique Boyer qui m'a demandé de faire la statue. Et alors, on a repris ça, mais j'ai dit, j'ai fait une tête, je l'ai faite plus figurative, j'ai même mis des pieds, et j'ai même mis des bras, ce qui fait que vous avez la statue de Boyer et la clinique Boyer. Et c'est la résultante de ce travail. Voilà. Vous voyez ? Mais ça n'a pas duré longtemps. Parce que moi, je n'y retrouvais pas là, le galbe d'une cuisse, le galbe d'une épaule, la rondeur d'une fesse, vous voyez, la douceur d'un visage, la tendresse d'un regard, le charnel d'une bouche, vous voyez. Donc, et je dis, mais vous ferez ce que vous voulez, moi je continue mon petit bonhomme de chemin. Vous comprenez? Parce qu'à cette époque-là, vous savez, c'était dur, parce qu'on vous prenait pour une andouille. Vous étiez un dinosaure. Alors, il faut résister à tout ça. Puis, petit à petit, ici, les gens ont été plus compréhensifs. Vous voyez ? Parce que si vous passiez par Paris, ce qui était figuratif, c'était systématiquement refusé.
Voilà, toujours Flavio De Faveri. C'était il y a quelques jours, c'était il n'y a pas très très longtemps, dans le grand hall du Conseil Général, où une exposition rétrospective lui est consacrée, prolongée jusqu'à la fin du mois de janvier. Et on en parle ce soir en compagnie de Roland Garrigue, auteur de Flavio De Faveri, un dessin sculpté aux éditions du Réveil. On vous connaît, Roland Garrigue, en tant qu'homme de culture. Vous aimez la culture. Vous pouvez naviguer comme ça d'un artiste très figuratif à quelqu'un qui ferait de l'art abstrait beaucoup plus facilement sans doute que Flavio De Faveri qui parfois a du mal à comprendre l'art moderne.
Pour qui aime la culture, je crois qu'il y a un mot qu'il faut bannir, c'est le mot sectaire. C'est Pierre Segers, une fois dans une conférence, avait lancé une phrase qui m'a toujours marqué, qui m'a toujours poursuivi, c'est l'œuvre est l'enfant de l'artiste. Un enfant, on le discute pas, on l'accueille. Eh ben, il faut accueillir les œuvres des artistes, sachant qu'ils ont donné tout de ce qu'ils savaient, de ce qu'ils pouvaient faire, de ce qu'ils pouvaient faire avec leurs mains, de ce qu'ils cette main qui prolonge leur pensée, qui prolonge leur culture, leur histoire. Et Dieu sait si dans le cas actuel de Flavio, c'est une longue histoire, une belle culture, tous des sédiments qui sont là et qui finalement rejoignent le génie et la tradition de notre département et de notre ville de Montauban. Et je suis très heureux d'avoir fait ce livre qui a été bien accueilli, qui est un livre pour les Montalbanais et Montalbanais, pour les Tarn-et-Garonnais, et je suis surtout très très heureux et très fier d'avoir fait plaisir à monsieur Flavio de Favery.
Vous l'avez eu comme professeur de dessin, vous, Flavio de Favery, Roland Garros?
Alors, je peux pas dire que je l'ai eu, mais j'étais son patron quand j'étais adjoint à la culture. Nous avions de relations excellentes parce que c'était quelqu'un qui, à l'époque, tenait à ce que les cours soient gratuits. Il voulait que, justement, ce soit démocratisé, prolongeant en cela les buts de l'école de dessin, les buts de Ingres et de ceux qui ont créé l'école de dessin à Montauban. Et je réunissais, vous savez, moi je suis un homme d'entreprise, et je réunissais ce que j'appelais mes chefs de service, avec le directeur du musée, la directrice du théâtre, directrice du musée d'histoire naturelle, et on se réunissait régulièrement, et il y était toujours, il était toujours très attentionné, mais avec des conseils très sages, très avisés et jamais trop dispendieux, mais toujours utile et toujours au moment où il fallait, il disait ce qu'il fallait.
Et vous racontez dans cet ouvrage que quand il a pris comme professeur de dessin à l'école municipale de Montauban, l'école municipale de dessin, il y avait 3-4 élèves et qu'il l'a remonté à plusieurs centaines.
Et à la fin, il y en avait plusieurs centaines et les gens se souviennent de lui. Vraiment, ils se souviennent de lui comme un très bon professeur qui montrait, faisait voir et sachait. Et ses élèves avaient de très bonnes notes au baccalauréat. Et il se souvient de certains de ses élèves qui ont fait une carrière soit dans la mode, soit dans le dessin de bijoux, la joaillerie, soit même dans il y a un élève qui a fait une carrière et qui a poursuivi à l'école de d'Angoulême et qui a fait une carrière. Il y a même un élève qui a fait une qui est à New York et qui fait une carrière internationale assez connue, et tous se souviennent de Flavio avec beaucoup d'affection, mais aussi se souviennent que s'ils ont pu acquérir quelque chose, c'est grâce à lui.
Voilà, parcours de cette vie est décrit dans Flavio de Favery, un dessin sculpté. C'est aux éditions du Réveil. Merci Roland Garrigue.
Et on peut le retrouver dans les librairies de Montauban, chez Deloche notamment.
Quelque chose en préparation pour la suite, un autre ouvrage sur l'Occitanie ou non? Là, c'est
non,
la politique.
Là, pour le moment, là, on va essayer de préparer quelque chose pour le mois de mai pour François Hollande et le mois de juin pour Valérie Rabault.
Merci Roland Garrigue d'être venu en parler sur CFM.